Au verset 19, voilà, Matthieu chapitre 6, le verset 19, c'est un texte qui se trouve dans ce qu'on a coutume d'appeler le serment sur la montagne, cette prédication magistrale du Seigneur Jésus, et il est écrit ceci, Matthieu chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors, sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et au verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. » Voilà, Mammon, c'est la richesse, le Dieu argent, si vous voulez. Et c'est vrai que, en tant que chrétien, parce que je m'adresse à des chrétiens ce matin, nous ne devons pas servir, nous ne devons pas adorer, comme le font hélas beaucoup dans le monde, le Dieu argent. Nous devons, nous, chrétiens, avoir un rapport à l'argent qui soit sain, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T, les deux à la fois, saint et saint. Il doit être en quelque sorte l'argent, notre serviteur, on s'en sert, c'est ainsi, mais sûrement pas notre maître, n'est-ce pas? Il ne doit pas nous posséder. Alors, d'abord, concernant les aspects matériels de l'existence, eh bien, le Seigneur nous invite à manifester une foi authentique et à bannir à ce sujet toute espèce d'inquiétude. Dans ce même chapitre 6, un petit peu plus loin, au verset 31, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses matérielles, donc, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. » Et il nous faut savoir, c'est vrai, compter sur notre Père Céleste. Alléluia. Il connaît nos besoins légitimes et dans son amour, dans sa fidélité, il saura y pourvoir. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous dit « Mon Dieu !» C'est Paul qui dit ça. Mais le Dieu de Paul, c'est aussi le nôtre. Alléluia. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Et le contexte du passage nous montre qu'il se réfère eh bien, aux besoins matériels que nous pouvons avoir. Les uns et les autres, nous sommes encore sur la terre et Dieu sait que nous sommes confrontés à ces réalités. Cependant, voyez-vous, la foi dans la providence divine, Dieu pourvoit. Hein? D'ailleurs, Abraham donnera ce nom au Seigneur, Yahvé-Jiré, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Mais cette foi dans la providence divine, donc, ne doit pas nous inciter à la désinvolture, ni à l'illusion. Oui, l'argent, puisque c'est de cela dont nous parlons, d'abord il faut le gagner. Mais oui. Et pour le gagner, honnêtement, on n'a rien trouvé mieux jusqu'à présent que de travailler, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui nous rappelle ces réalités, ces nécessités. Dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 10, l'apôtre Paul aborde cette question et il dit ceci. Chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens, verset 10, « Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, l'amour fraternel, écoutez la suite, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. » Voilà la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous. Vous savez, le travail, c'est pas une malédiction. Parce que je ne sais si vous avez noté, mais dans le livre de la Genèse, avant même qu'Adam et Ève aient péché, hélas, ils travaillaient. Genèse chapitre 2, verset 15, je vous ferai grâce de la lecture, nous dit que Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Voyez, Adam n'était pas un oisif, je sais pas moi, en train de renifler le parfum suave des fleurs du jardin d'Éden. Il ne se contentait pas de se promener sous les arbres magnifiques qui étaient là. Non, il avait une fonction, il avait un travail, il avait une responsabilité, n'est-ce pas, de gérer la création dans le milieu de laquelle le Seigneur l'avait placé, cultiver et garder le jardin. Ce qui est devenu une malédiction, c'est qu'après la chute, le travail est devenu pénible. Ça, c'est la conséquence du péché. Le Seigneur dira à Adam, eh bien, c'est à la sueur de ton front, avec beaucoup d'efforts, quoi, que tu mangeras ton pain, et jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré. La confirmation de ce fait, de la noblesse du travail, de la nécessité du travail, c'est qu'on voit dans la parole de Dieu que souvent, ceux que Dieu a appelés à une vocation spéciale, eh bien, quand Dieu les a appelés, ils étaient non pas oisifs, eux non plus, voyez, mais en plein travail, en plein travail. Tenez, par exemple, Moïse, quand Dieu lui est apparu dans le buisson ardent, l'Écriture nous dit qu'il gardait le troupeau de son beau-père, Jéthro. Pareil avec David. On a été le chercher, ce petit bonhomme, en disant, hey, « Hé, David, le prophète Samuel veut te voir !» Et là, il était derrière son troupeau, lui aussi gardant ses moutons dans la campagne de Bethléem. Il est arrivé, là, et on l'a oint, disant, « Voilà, tu seras le roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. » On voit ça aussi avec le prophète Élisée. Lorsque Élie, par un geste significatif, lui a fait part de l'appel divin qui reposait sur sa vie, Élisée était en train de labourer, voyez, de labourer avec ses bœufs. On pourrait parler dans le Nouveau Testament, Pierre, André, Jacques, Jean, marins pêcheurs de leur état. Lorsque Jésus les a appelés, ils étaient au boulot. Eh oui, et Jésus leur a dit, suivez-moi et je ferai vous des pêcheurs d'hommes. Et à tout Seigneur, tout honneur, Jésus lui-même nous donne un exemple d'une vie de labeur. Parce que si son ministère n'a duré que 3 ans et demi, il y a derrière une longue vie de travailleur. C'était un charpentier, il avait les mains calleuses, Jésus, voyez. C'était pas lui non plus un doux rêveur, s'occupant de futilités. Non, 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 non. Il sait ce que c'est qu'avoir, une charge de travail, de longues heures de travail au cours de la journée. Telle est la volonté de Dieu. Alors, il est vrai, poursuivons notre réflexion, que quant à l'argent, il faut fuir la cupidité. L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, nous verset 5, nous dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. Voilà, adorer l'argent, l'aimer par-dessus tout, être attaché à l'argent et aux biens matériels, être dépendant, asservi, accaparé, omnibulé par cette affaire. L'Écriture nous met souvent en garde contre cette attitude. Tenez, écoutez ce que dit Paul, encore lui, dans la première à Timothée, au chapitre 6, au verset 6 également. C'est en effet une grande source de gain, dit Paul, que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Hein? On partira nus comme des vers, excusez-moi l'expression. Hein? Et si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour de l'argent. Vous voyez ? Quelques-uns en étant possédés, le terme est fort, possédés, pris, voilà, hein, accaparés, hein, ligotés par cette affaire-là. Voilà. Et on connaît le cas du jeune homme riche. Pourtant, il avait l'air plein de bonnes intentions, ce garçon, disant, « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Et quand Jésus a mis le doigt sur la plaie, et la plaie de son cœur, c'était l'idolâtrie, la cupidité, eh bien, il est parti tout triste, se privant ainsi du salut, car son cœur était lié par ses richesses. Ainsi, voyez, il faut savoir se limiter dans nos ambitions. Ne pas se laisser entraîner par cet esprit mondain. La mondanité, c'est pas seulement, je sais pas moi, la couleur de la cravate ou des chaussettes. La mondanité, c'est ça. C'est ça. C'est cet état d'esprit qui se développe dans notre société, particulièrement notre société occidentale. Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Jamais satisfait. Jamais satisfait. Insatisfaction permanente. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit, chapitre 5, verset 9, que celui qui aime l'argent, il n'est pas rassasié par l'argent. Ça veut dire que plus il en a, plus il en veut. Voyez. Et quand on est engagé dans cette course folle, attention, ne dites pas c'est pour les autres, moi je suis à l'abri. Non, 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 vous savez. Il y a même des gens aux revenus fort modestes qui sont attachés aux 4 sous qu'ils ont, comme à la prunelle de leurs yeux. Vous voyez, c'est une question, c'est pas l'ampleur du porte-monnaie qui compte, c'est l'état d'esprit, c'est la mentalité, c'est le cœur. Hein? Voilà. La richesse en soi n'est pas un péché, précisons-le. Et Dieu qui est souverain, vous savez que Dieu est souverain? Il fait ce qu'il veut. Attention, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Il fait toujours ce qui est conforme à sa justice, à sa puissance, à son amour, à sa sagesse. Mais il est souverain. Et dans sa souveraineté, il peut faire en sorte que parmi ses enfants, certains, je dis certains, deviennent riches. Attention, je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité. Hein? Vous savez, ces prédicateurs-là, ou plutôt ces bonimenteurs qui vous disent, plus vous en donnerez, plus vous en recevrez, ce sera formidable. Et tous les chrétiens seront riches comme Crésus. C'est faux. C'est une fausse doctrine. C'est une erreur vomie par l'enfer et dont il faut se garder. Mais c'est vrai, par ailleurs, voyez, que Dieu peut faire en sorte que certains, eh bien, soient particulièrement fortunés. Mais à cela, je ne sais pas s'il y en a ce matin au milieu de nous, eh bien, le Seigneur adresse une recommandation spéciale. Toujours dans la première à Timothée, chapitre 6, encore verset 17, Paul dit ceci, recommande aux riches du présent siècle, il y en avait donc dans l'église primitive, recommande-leur de ne pas être orgueilleux, eh oui, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Eh, c'est pas un péché la richesse. Recommande-leur, encore une fois, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Voilà, aux riches, le Seigneur adresse ces recommandations particulières. Ils doivent servir Dieu avec leurs richesses. Non pas servir les richesses, mais servir Dieu avec les richesses. Nous servions le Seigneur il y a quelques années de cela dans une assemblée où il y avait un frère et une sœur qui avaient, disons, une position sociale, voyez, très, 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 très à l'aise. Et ce frère un jour est venu avec beaucoup de simplicité me voir, m'a dit, écoutez, de par mon travail, il était commerçant, il gérait un supermarché, il m'a dit, écoutez, j'ai peu de temps à consacrer à l'œuvre de Dieu, parce que je suis très pris par mes activités professionnelles, mais il m'a dit, voilà, je veux, bon, Dieu m'a béni dans le domaine matériel, je veux servir Dieu de cette manière. Voilà, c'est bien. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Et lorsque quelques besoins particuliers se sont présentés dans l'église, eh bien, ce frère a su répondre parce qu'il le pouvait, c'est vrai. Mais non seulement il le pouvait, mais il le voulait aussi, vous voyez. Il y avait cet état d'esprit, cette mentalité, cette générosité, cette libéralité, que Dieu soit glorifié. L'argent, nous l'avons dit, il faut le gagner, honnêtement, en travaillant. Mais également, il faut savoir le dépenser. Vous me direz, frère, ça c'est pas difficile. Si. C'est difficile de le dépenser judicieusement et de le gérer correctement. L'Écriture nous donne à ce sujet des indications précises, voyez. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie vaporeuse, là, on est toujours dans les nuages. Non, il y a des réalités. Et la parole de Dieu, elle aborde ces réalités. Par exemple, ce que le Seigneur recommande, c'est d'éviter les dettes. Vous savez ça? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, au verset 8, permettez que je lise ça pour vous, il est dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. » Alors, entendons-nous bien. Si, mon frère, tu achètes une voiture, si tu achètes un appartement, que tu contractes un emprunt et que régulièrement tu paies tes traites, ça, c'est pas une dette. Par contre, si j'emprunte 200 euros à mon frère Julien, je lui dis, je te rembourse ça le mois prochain. Et puis le mois prochain, quand je le trouve dans la rue, je change de trottoir parce que j'ai pas envie de lui rembourser. Ça, c'est une faute, non seulement vis-à-vis du frère, mais vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Le prophète Habacuc, dans l'Ancien Testament, dira ceci, « Malheur, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas ?» Oui, il y a toujours un moment où on est pris à la gorge. Oui, alors, nous vivons dans une société, je le disais tout à l'heure, qui toujours plus. On veut davantage, hey, c'est tentant, allez, un petit crédit par-ci, un petit crédit par-là, toum, 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 et puis tu finis par te retrouver étranglé. Ça n'est pas une attitude chrétienne. Il faut savoir mettre de l'ordre dans ces domaines-là aussi, dans notre vie, mes amis. Ça fait partie de la sanctification. Être saint, c'est pas avoir les yeux fixés vers le ciel et les mains jointes. C'est dans les réalités terrestres qu'il faut que notre confession de foi chrétienne puisse se manifester. De la même manière, l'Écriture nous recommande qu'il s'agit d'être d'une intégrité rigoureuse dans les affaires. Non, 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 pas de triche, aucunement. C'est écrit, mais oui, c'est écrit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8. Il est dit ceci, verset 6, pardon. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, et attention, la suite dit, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Vous voyez ? Être intègre dans les affaires, être droit, être réglo, voilà. Ah, c'est sûr, on vit dans un monde, ça marche à l'envers de tout ça. Hein. Quand on peut financer, quand on peut tricher, quand on peut magouiller, on y va dans le monde, mais pas parmi les chrétiens, pas parmi les enfants de Dieu, voyez. Et il nous faut comprendre qu'il n'y a pas d'une part notre vie spirituelle, le dimanche matin recueilli au culte, et puis après la vie, quoi. La vie de tous les jours. Non, c'est un tout. Nous sommes chrétiens ici, nous sommes chrétiens à l'extérieur. Nous sommes chrétiens le dimanche matin, le dimanche après-midi, c'est pas interdit de venir à la réunion non plus. Et puis nous sommes chrétiens aussi dans la semaine, dans votre lycée pour les plus jeunes, ou votre université, dans votre entreprise, dans votre administration, là où vous travaillez, quoi. Chrétien, chrétien partout, chrétien dans le quartier, chrétien avec les voisins, chrétien dans la famille, vivant selon ces principes. Même, l'Écriture nous dit que nous devons payer nos impôts. Eh oui, hein. Dieu aborde aussi ces questions-là, voyez. Dans Romains chapitre 13, verset 6, il est dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats, les percepteurs, sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Vous ne saviez pas ça, hein? Le percepteur que vous aimez pas trop, c'est un serviteur de Dieu. Même s'il ne le sait pas, Dieu dit qu'il est ainsi. Et le texte dit, rendez à tous ce qui leur est dû, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut, la taxe si vous voulez, à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà, ça aussi c'est un principe chrétien. On ne triche pas sur ces déclarations fiscales. Hein? C'est ainsi. Avoir de la générosité, eh bien, envers aussi ceux qui parmi nos frères et sœurs sont dans le dénuement et la précarité, auprès comme au loin. On connaît bien Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous connaissez un Jean 3,16? Ah! Alors, 1 Jean 3,16, tenez, on va le lire. Il est dit ceci, « Nous avons connu l'amour de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Et avec vérité, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Voilà. Le chrétien, c'est le contraire de l'égoïste. Attention quand même. C'est pas un pigeon qu'on plume facilement. Parce que des fois, il y a des gens, ils savent, ling, 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 faire vibrer la corde sentimentale. Hein? Il faut savoir faire la part des choses. Mais lorsqu'il y a un besoin authentique, lorsqu'il y a une détresse, lorsqu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans le dénuement, dans la précarité, eh bien, il faut savoir payer de sa personne et payer aussi de ses deniers quand il le faut. Et puis, manifester de la libéralité quant au besoin de l'œuvre de Dieu. Amen. On va parler de l'Assemblée Générale, alors on y va en plein aujourd'hui. Hein. Sur le plan local, tenez, dans Hébreux chapitre 13, verset 6, nous trouvons cette parole, verset 16, excusez-moi, Hébreux 13, verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est d'un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. » Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, vous et moi, tous, des serviteurs du Seigneur, ok? Amen. Nous participons au sacerdoce. Vous voyez, c'est pas comme dans l'Ancien Testament où il y avait les sacrificateurs et le peuple. Non, non, aujourd'hui, Jésus est notre grand souverain sacrificateur établi dans les lieux célestes, mais tous les croyants sont aussi appelés à exercer la sacrificature. Et parmi les éléments qui constituent notre sacerdoce, notre service, il y a cela aussi, la libéralité et la générosité, la bienfaisance, pour permettre le développement de l'œuvre de Dieu sur le plan local, en vue de l'évangélisation de la France, amen, qui est une terre de mission, et en vue de l'évangélisation hors des frontières, puisque l'Écriture dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Mais dites-moi, pour que ce programme soit accompli, pour que cet ordre de mission soit suivi des faits, il faut donner les moyens à ceux qui sont appelés d'y répondre. Et c'est pour ça que dans la première aux Corinthiens, eh bien, l'apôtre Paul aborde cette question à propos de l'offrande, voyez. Il dit ceci, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, c'est-à-dire des croyants, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donnez les moyens à ceux qui sont appelés. Dans la deuxième aux Corinthiens, je m'excuse d'aller un petit peu vite, mais je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Voici ce que Paul dit à l'égard des chrétiens de la Macédoine, c'est-à-dire là-bas, du côté de la Grèce, dans le nord. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinés aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous voyez, ces gens-là ne considéraient pas que le fait de participer financièrement au soutien de l'œuvre de Dieu était une obligation pénible, quelque chose qui leur arrachait le cœur. Non, c'était une grâce. Considérez que c'était une grâce de pouvoir, avec les 4 sous qu'ils avaient, servir le Seigneur. Et c'est l'état d'esprit que nous devons avoir également. Toujours dans cette deuxième, aux Corinthiens, au chapitre 8, au chapitre 9, pardon, un petit peu plus loin, au verset 6, il est écrit ceci, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alléluia. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Amen. Dans le fait de donner, vous voyez, dans tous ces chapitres 8, 9, Paul aborde cette question de la libéralité, de l'offrande, de la générosité. Et il y a un verset significatif au chapitre 8, au verset 9. Il dit ceci, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Autrement dit, voyez, il ramène tout ça à l'œuvre de la croix, dont il nous demande de nous inspirer. Le don parfait de Dieu, c'est Jésus. Il s'est fait pauvre, il s'est appauvri. Il est venu comme un simple homme, il s'est dépouillé, n'est-ce pas, d'une partie de la gloire qui était la sienne dans le ciel, pour venir au milieu de nous et pour mourir sur la croix. Et cela doit nous inciter à faire preuve donc de libéralité, de générosité, car quelle que soit l'importance de notre don, nous ne pourrons jamais égaler le don de Christ en notre faveur. Alléluia. Alors en conclusion, parce que je veux conclure, en ce qui concerne l'argent et les biens matériels, nous devons considérer que nous en sommes non pas les propriétaires, non, non, non. Ce que j'ai n'est pas à moi. Ah bon ? Non. Nous considérer non pas comme les propriétaires, mais plutôt les gestionnaires, les administrateurs, les intendants des biens que Dieu, dans sa grâce, nous a confiés. Il faut donc, répétons-le, les gérer correctement pour que nos propres besoins légitimes soient assurés et aussi nos biens matériels les faire servir à la gloire de Dieu et à l'avancement de son œuvre. Amen. Et sachons que si c'est le cas, nous en serons bénis. Amen. Nous en serons amplement récompensés dès ici-bas et encore plus dans le royaume des cieux. Jésus aborde cette question dans l'évangile de Luc au chapitre 16, au verset 9. Il dit ceci, n'est-ce pas ? Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, c'est-à-dire les choses matérielles, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ça ne veut pas dire qu'on achète le salut, non. Mais ça veut dire que si nous sommes fidèles, ici-bas, par rapport à la libéralité, la générosité concernant l'œuvre de Dieu, nous en récolterons les effets aussi dans le royaume des cieux. Et le Seigneur ajoute, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous servira ce qui est à vous? Et il termine avec la parole qu'on a lue précédemment, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Un dernier texte que je voudrais lire pour vous, c'est ce texte de Malachie ou Malachie, je ne sais pas trop comment il faut dire, où le Seigneur fait un reproche, c'est dans l'Ancien Testament, c'est vrai au peuple d'Israël. Écoutez ce qu'il leur dit. Malachie, chapitre 3, verset 8. « Un homme trompe-t-il son Dieu ? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé ? » Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous voyez, ces gens étaient infidèles par rapport à la dîme ou l'offrande, vous voyez. Ils n'accomplissaient pas ce que leur ordonnait la loi. Alors il y avait une espèce de malédiction sur le pays. Les récoltes étaient maigres, on ne s'en sortait pas. Il manquerait toujours 3 sous pour faire un franc, n'est-ce pas? Et ils se disaient, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive? Et Dieu leur répond. Il leur dit, voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais si vous êtes fidèles, je répandrai sur vous la bénédiction. Et c'est vrai que cette affaire d'évangile de la prospérité, il ne faut pas y croire. Mais c'est vrai aussi que quand nous sommes fidèles, Dieu est également. Et sa fidélité surpasse toujours la nôtre. Et c'est pourquoi nous voulons lui en rendre gloire, que son nom soit béni. Recueillons-nous quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité.